La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
L'art et la matière. Une émission de Jean Deloisy.
Parce qu'on veut transformer la vie.
Ils empruntent des chemins qui n'existent pas, ils utilisent des formes et des mots inconnus, ils transforment ce que nous savions du monde, ce sont les artistes. Pour vous raconter ces aventures de l'œil et de l'esprit, j'invite écrivains, historiens, commissaires d'exposition ou simplement passionnés, car l'art est leur matière. Vous en conviendrez peut-être, l'art, la poésie, la beauté nous paraissent naturellement associés à la possibilité d'engager la rêverie, d'emporter la pensée vers des associations peu contrôlées et agréables. Mais si poètes, peintres et cinéastes se sont chargés en effet de ces 12 dérives de la psyché, un virus sans doute s'est glissé là, utilisant le plaisir fécond de l'imaginaire et l'entraînant vers les dangereux rivages du consumérisme, ou pire, de la manipulation politique. C'est cette corruption progressive de nos esprits par ce projet, à l'origine bien innocent, qui est celui de nous faire rêver, qu'analyse brillamment Thomas Schlesser dans son ouvrage qui vient de paraître chez Gallimard, « Faire rêver de l'art des Lumières au cauchemar publicitaire ». Un livre passionnant. Histoire de l'art, histoire du cinéma, de la littérature, de la pensée politique s'y mêlent pour décrypter cette dégénérescence, cette lente détérioration de nos rêves par ceux qui s'étaient chargés de les influencer. Je reçois donc Thomas Schlesser, auteur de ce livre remarquable, au titre inhabituel et qui ne renvoie pas à l'exercice particulier d'une discipline. Faire rêver de l'art des Lumières au cauchemar publicitaire, Thomas Schlesser, bonjour.
Bonjour Jean Deloisy.
Vous allez bien?
Oui, ça va très bien.
Je trouve que vous débordez complètement le cadre habituel de l'histoire de l'art. On est dans une histoire de la société, quasiment.
Oui, c'est, en tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est de rendre, faire communiquer à la fois l'histoire des formes, qui est ma discipline d'origine, mais également l'histoire des idées, l'histoire des sciences aussi, beaucoup, pour permettre au lecteur de comprendre que l'art n'est jamais un supplément d'âme de la société, mais toujours une matrice, une source qui agit en profondeur sur ce que sont les différents esprits du temps.
Vous aviez écrit un livre qui a été très remarqué, qui avait un titre baudelairien, L'univers sans l'homme. Baudelaire est toujours près de vous.
Oui, et d'ailleurs, en fait, mon faire rêver est l'émanation de cet univers sans l'homme. Il en est en quelque sorte le revers. Pourquoi ? Parce que l'univers sans l'homme cherchait à analyser la façon dont une tendance dans l'art, qui était celle de décentrer le regard pour ne plus se concentrer sur l'être humain, mais pour examiner les choses, les animaux, les plantes, ou pour désincarner le regard, eh bien, finissait par aboutir paradoxalement à réinventer un humanisme nouveau. Et à l'inverse, il me semble que ce projet qui est celui de faire rêver peut être déshumanisant. Or, cette mise en regard entre l'univers sans l'homme d'un côté et le triomphe de l'imagination comme faculté cardinale de l'autre, c'est Baudelaire qui le met en scène dans son formidable salon de 1859. Et je ne dis pas que mes livres sont des réponses à Baudelaire, je n'oserais pas avoir cette présomption, mais en tout cas, mes généalogies, elles sont fortement influencées par les textes de Charles Baudelaire, c'est exact.
Alors le livre commence sur un sujet qui paraît très décalé par rapport à cela, c'est la réinvention de l'architecture de la demeure au XVIIIe siècle et l'invention de la chambre.
Mais c'est quelque chose de tout à fait fondamental sur le plan de l'histoire culturelle, parce qu'au XVIIIe siècle, il y a une notion qui nous paraît absolument évidente aujourd'hui, mais qui pénètre en profondeur la société, c'est celle de l'intime. Alors pourquoi est-ce que l'intime naît au XVIIIe siècle? Essentiellement pour des raisons architecturales. C'est que, il faut imaginer que ce sont des phénomènes assez lents, mais au XVIIIe siècle, il y a une privatisation des comportements par une claustration progressive des espaces. C'est-à-dire que l'habitat se réduit, se rationalise, et les pièces, petit à petit, eh bien, ont des vocations, des rôles qui sont de plus en plus fonctionnels. Et parmi ces pièces, il y en a des nouvelles qui apparaissent. Par exemple, le cabinet où on travaille, le boudoir, et puis surtout, une pièce absolument fondamentale, la chambre à coucher. Et je dis bien à coucher.
Pourquoi ? Parce qu'avant, c'était une chambre de réception,
Mais c'est parce que, en effet, quand on pense au mot chambre, aujourd'hui, on l'associe toujours à la chambre à coucher, mais en réalité, une chambre, c'est un endroit où on se réunit. D'où, par exemple, l'expression de chambre des députés.
Ah ouais.
Et dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, la chambre devient bel et bien cette chambre à coucher, c'est-à-dire un endroit dans lequel, eh bien, non seulement on dort et on exulte sur le plan érotique, mais où on rêve aussi beaucoup, et donc une pièce qui est vraiment propice à l'intime et à la rêverie.
Le boudoir n'est que le préliminaire.
Oui, le boudoir n'est que le préliminaire.
Alors je propose, écoutons un texte de Baudelaire justement, ça vient des poèmes en prose, c'est La chambre double, écoutons-le.
Une chambre qui ressemble à une rêverie. Une chambre véritablement spirituelle, où l'atmosphère stagnante est légèrement teintée de rose et de bleu. L'âme y prend un bain de paresse, aromatisé par le regret et le désir. C'est quelque chose de crépusculaire, de bleuâtre et de rosâtre, un rêve de volupté pendant une éclipse. Les meubles ont des formes allongées, prostrées, alanguies. Les meubles ont l'air de rêver. On les dirait doués d'une vie somnambulique, comme le végétal et le minéral. Les étoffes parlent une langue muette, comme les fleurs, comme les ciels, comme les soleils couchants. Sur les murs, nulle abomination artistique. Relativement au rêve pur, à l'impression non analysée, l'art défini, l'art positif, est un blasphème. Ici, tout a la suffisante clarté et la délicieuse obscurité de l'harmonie. Une senteur infinitésimale du choix le plus exquis, à laquelle se mêle une très légère humidité, nage dans cette atmosphère où l'esprit sommeillant est bercé par des sensations de serre chaude.
Sur France Culture et vous écoutez L'art et la matière. On vient d'entendre la belle voix d'Hélène Losseur lire un très beau texte de Baudelaire sur la chambre et la rêverie de la chambre, puisque évidemment nous parlons de ce livre de Thomas Schlesser, Faire rêver, de l'art des lumières au cauchemar publicitaire. Et je suis avec Thomas Schlesser. Nous sommes, Thomas, à peu près une centaine d'années après le moment que vous citiez, c'est-à-dire la transformation de l'habitat avec la création de cette chambre qui devient un espace privé pour la rêverie, justement.
Oui. Et au XIXe siècle, on va voir se multiplier, en effet, des variations autour de ces endroits, ces espaces clos propices à la rêverie. Alors on a entendu Baudelaire, on peut penser à Huysmans dans À rebours aussi.
Ah, bien sûr.
On peut penser plus tard, au début du XXe siècle, à Marcel Proust, et puis aller ensuite du côté, pourquoi pas, de Georges Perec. Je voudrais juste citer un texte beaucoup moins beau que celui de Baudelaire, mais qui a l'avantage d'être beaucoup plus proche dans le temps du XVIIIe siècle, et même à la fin du XVIIIe siècle. siècle, c'est un texte qui s'appelle « Voyage autour de ma chambre » de Xavier de Maistre. Et c'est un texte absolument inouï dans lequel Xavier de Maistre, en fait, rêve à partir de des moindres objets qui se situent dans un endroit clos, petit, mais où eh bien il se livre à une immense aventure mentale. Et ce, dans des circonstances particulières, puisque Xavier de Maistre écrit ça alors que il a été emprisonné après une affaire de duel.
Vous avez comme ressort dans votre livre un mot et qui concerne ce dont nous parlons, qui est l'onirogenèse.
Alors, c'est pour être précis, donc j'ai un mot qui... dans mon livre, je me suis permis, disons, un néologisme.
Non, il y en a deux. Il y a l'oniropompe aussi.
Dans mon ouvrage, j'essaye d'éviter au maximum le jargon, mais il y a un concept que j'ai cherché à forger pour expliquer la différence entre ce qui relève du rêve et ce qui fait rêver. Ce qui relève du rêve, c'est l'onirisme, et ce qui fait rêver, c'est ce qui est onirogène, ça l'adjectif existe, et ce qui n'existe pas, c'est le substantif, et je parle d'onirogénéité. Donc, en effet, j'admets que le mot peut être un peu pénible à prononcer, mais il a l'avantage d'être très précis pour qualifier ce qu'est le sujet du bouquin.
Mais vous avez raison, on a la sensation que c'est un embrayeur. Et quelque chose que vous remarquez, que vous faites remarquer dans le livre, c'est que la théorie esthétique, et en particulier celle du XVIIIe siècle, évoque cette question. Et vous évoquez par exemple les textes de Coypel sur le grand peintre du roi.
Tout à fait. Antoine Coypel, donc au moment où il est premier peintre du roi, donc il est vraiment en pleine gloire, fait des discours devant l'Académie, et dans l'un d'eux, il explique, en se mettant dans la peau d'un honnête homme, que un tableau doit être beau, dit-il, parce que celui-ci le fait rêver, et le fait rêver agréablement. Et cette phrase de Coypel, elle est tout à fait capitale, à mon sens, parce qu'elle est la première occurrence, en tout cas celle que je connais, la première occurrence de l'onirogénéité comme critère de légitimation esthétique. Et on va le retrouver ensuite beaucoup au XIXe siècle, mais c'est là vraiment sous la plume de Coypel, je crois, qu'il apparaît.
Alors il y a là quelque chose, ça veut dire, si je comprends bien, vous regardez le tableau et ce tableau vous engage dans une rêverie.
Exactement.
Ça ne veut pas dire que ce tableau représente le rêve.
Absolument.
Mais qu'il vous engage dans une rêverie. Et donc ça fait penser par exemple à ce fameux tableau sous la lune de Vernet.
Oui. Alors, tout à fait, Joseph Vernet est un peintre qui, au XVIIIe siècle, a un grand succès, qui est un peu oublié aujourd'hui en dehors des spécialistes, qui est un peintre notamment connu pour ses scènes de paysage, pour ses scènes de port, et c'est un peintre qu'aime notamment beaucoup Diderot. Et Diderot, devant Vernet, se livre à un exercice tout à fait amusant dans un de ses grands récits critiques, dans un de ses salons. Il fait semblant à un moment donné de partir pour ne plus faire ses critiques de tableaux et de partir en pleine nature. Et puis quelques pages plus loin, il dit à son lecteur « Ah, mais en fait, je vous ai trompé, cher lecteur, j'étais en train de vous décrire un tableau, mais j'étais tellement emporté par ce tableau que j'ai fini par y vivre tout à fait. » Et en fait, de ce fait, Diderot est capable de véritablement mettre en situation ce qu'est l'onirogénéité et de le faire, de le partager avec son lecteur. C'est très habile de sa part.
Alors, il y a quelqu'un qui va être sensible à nouveau, Baudelaire, à cette question. Et là encore, dans ce fameux salon que vous qualifiez, le salon de 1859, sur lequel Baudelaire a fait une vingtaine de pages, donc c'est un texte très très dense, et vous qualifiez ce texte de véritable manifeste esthétique, en fait. Hein.
Oui.
Et donc, dans ce texte, je propose qu'on l'écoute, il évoque à propos de la croix, cette question-là de la rêverie.
Je tourmente mon esprit pour en arracher quelques formules qui expriment bien la spécialité d'Eugène Delacroix. Excellent dessinateur, prodigieux coloriste, compositeur ardent et fécond, tout cela est évident, tout cela a été dit. Mais d'où vient qu'il produit la sensation de nouveauté? Que nous donne-t-il de plus que le passé? Aussi grand que les grands, aussi habile que les habiles, pourquoi nous plaît-il davantage? On pourrait dire que doué d'une plus riche imagination, il exprime surtout l'intime du cerveau, l'aspect étonnant des choses, tant son ouvrage garde fidèlement la marque et l'humeur de sa conception. C'est l'infini dans le fini. C'est le rêve. Et je n'entends pas par ce mot les capharnaüms de la nuit, mais la vision produite par une intense méditation ou, dans les cerveaux moins fertiles, par un excitant artificiel. En un mot, Eugène Delacroix peint surtout l'âme dans ses belles heures.
En fait, cette continuité de l'esprit qui poursuit la scène et le contexte de la scène qui est représentée, donc pour Delacroix, on imagine le tumulte autour de Sardanapale, le destin de ce bûcher terrifiant, etc. C'est quelque chose que Baudelaire appelle la présence de l'infini dans le fini. Mais est-ce qu'il y a un infini qui va se glisser dans les tableaux et qui permettrait de réellement compléter par l'esprit le tableau en train qui vient d'être fait ?
Alors, tout dépend, à mon sens, de deux choses. La première chose, c'est de la disponibilité du regardeur. Après tout, on n'est pas forcé d'être sensible à la peinture, c'est pas une obligation morale. Et puis, quand bien même on y est sensible, les dispositions de l'esprit ne sont pas toujours suffisamment ouverte pour que un infini puisse soudain se déclencher. Je veux dire par là, ça va être un peu caricatural, mais l'infini, ça se mérite. Ça vient pas tout seul du premier coup. Et puis l'autre chose, évidemment, c'est qu'il y a des tableaux, des œuvres qui favorisent davantage cette expansion que d'autres. Je ne dis pas nécessairement que ce sont les meilleurs. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire, parce qu'il peut y avoir des choses qui sont très finies et très massives, notamment dans la sculpture, et qui ont une évidence implacable et qui n'appellent pas beaucoup à la rêverie. Mais en effet, il y a des tableaux dont la clé, dont la qualité est de soulever tout à coup quelque chose qui les excède. Exactement comme avec un beau poème ou une belle musique.
Alors là, tout va bien pour l'instant, parce que il faut peut-être deviner la trajectoire de votre livre, parce que nous sommes en train de parler des enchantements esthétiques du début, d'une rêverie qui s'installe dans l'œuvre et qui effectivement est délicieuse. Ça va se compliquer, et cette rêverie, au fond, c'est la thèse de votre livre, va nous conduire à une certaine manipulation des esprits. Mais puisque nous n'en sommes pas encore là, peut-être sur l'étape, encore une étape sur cette trajectoire, ça serait d'évoquer non plus le tableau qui fait rêver, mais la représentation même de la rêverie. Comment est-ce qu'il y a des œuvres qui mettent en scène cette rêverie ?
Alors, il y a un tableau très célèbre en la matière, c'est celui de Fuseli, qui est d'ailleurs davantage un cauchemar, puisque c'est son titre, qu'un rêve, hein, qui est un tableau donc dans sa première version du début des années 1780, il va connaître plusieurs déclinaisons, et c'est un tableau qui représente une femme allongée, avec sur son torse un démon, un kobold, et puis derrière un rideau, un cheval, une jument pour être plus précis, avec des yeux globuleux et nitescents, et qui est en train de sourire, et dont la crinière est semblable à une flamèche un peu démoniaque. Et ce tableau représente donc en effet un moment, une vision d'horreur de cette femme. Et si ce démon est sur sa poitrine, c'est parce qu'au XVIIIe siècle, on estime que le cauchemar, c'est un moment de compression thoracique. Le génie de ce tableau, je voudrais vraiment le dire, parce que Jean Starobinski, éminent lettré qui a beaucoup étudié ce tableau, ne l'a pas dit, et je ne sais pas s'il l'a vu. Mais à mon sens, le génie de ce tableau, c'est que le cauchemar n'est pas un cauchemar cosmique, c'est pas simplement une vision de fin du monde comme il pouvait y en avoir chez Bosch ou Bruegel. C'est un tableau où le cauchemar est mis en scène dans la chambre elle-même, ce qui signifie que c'est un tableau qui ne représente pas simplement le rêve, mais qui invite à faire rêver le regardeur, qui sera donc comme contaminé par cette vision horrifique. Parce que il va s'identifier avec le contexte d'intimité dans lequel se trouve cette dormeuse assaillie par un démon. Et au moment où lui-même gagnera sa couche, eh bien, cette image a toutes les chances de gagner son esprit, exactement comme fonctionne le cinéma d'horreur, le cinéma de science-fiction, qui a bien compris que, pour être efficace, il fallait précisément mettre les personnages qui sont victimes de monstres ou de serial killers dans des situations très proches de celles du spectateur dans au cinéma, et qui ensuite, quand il regagnera son appartement ou sa maison, eh bien se dira « Bon sang, mais je risque moi-même ce qu'a risqué celui qui était en fait simplement qu'un personnage de celluloïde. »
Ce que vous avancez, c'est qu'il y a une machinerie, un device, comme diraient les Anglais, qui se met en place là, et que vous repérez, et qui est commencer à manipuler l'esprit de celui qui regarde.
Complètement.
Et donc c'est le début d'un processus inquiétant.
Alors, qui dans un premier temps, il faut bien le dire, a été mis au service, en tout cas d'une ambition, qui était celle d'une réforme utopique de la société.
Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ce tableau est mis au service d'une réforme utopique ?
Pardon, je ne parle pas de celui de Fuseli. Ce que je veux dire, c'est que suite au cauchemar de Fuseli, qui s'inscrit en effet dans une lignée d'œuvres qui cherche à avoir un impact maximal sur l'esprit, il va y avoir le développement du mouvement romantique en Allemagne, oui. Ensuite en France de l'impressionnisme, et quantité de courants artistiques dont l'ambition, je le répète et j'insiste, est d'avoir un pouvoir suggestif sur la conscience et l'inconscient du public pour l'inviter à créer quelque chose de meilleur. Donc, c'est ensuite simplement au XXe siècle que ça va tourner à la catastrophe.
Oui, là on est encore dans un projet de civilisation avec une élévation collective grâce aux images en fait.
Exactement. Alors on a même un point très précis là-dessus, c'est entre 1819 et 1825, un grand réformateur social qui s'appelle Henri Saint-Simon, qui invite les artistes à être à l'avant-garde de la société pour leur proposer des images d'un monde meilleur, afin que le public se conforme à ce monde et que, au fond, la société accomplisse sur Terre le paradis terrestre, qui n'est donc plus un retour à un paradis hypothétique, chrétien et passé, mais un paradis futur. Et je le répète, les artistes sont en charge d'une mission absolument incroyable, puisqu'il s'agit de produire des visions d'harmonie, d'Éden, d'Arcadie, pour que la société soit invitée à les réaliser, concrètement, matériellement.
Donc c'est une vision positive et heureuse. Oui. En fait, qui se construit, c'est comme si on donnait, si je vous comprends bien, une responsabilité sociale à l'artiste, qui se substitue presque à celle de la religion qui se défait à ce moment-là.
C'est exactement ça. Au fond, la promesse du christianisme, qu'est-ce que c'était ? C'était l'imminence d'une fin des temps, avec ensuite un tri entre les justes et les damnés. Bon, et puis cette promesse qui remonte à Jésus et à Saint Paul n'a pas lieu, les temps continuent jusqu'à la Révolution française, et donc un grand moment de désenchantement, qui signifie pas que le christianisme disparaît complètement, pas du tout, mais en tout cas un grand moment de désenchantement et de remise en cause des fondamentaux de la société. Et face à cela, en effet, naît d'autres doctrines qui consistent à dire il faut que le paradis ne soit pas un paradis hypothétique, mais vraiment, véritablement un paradis terrestre. Et ces nouveaux clercs, ces nouveaux prophètes, ce sont les artistes avec cette charge qui est en effet assez considérable quand on y songe.
Alors, il y a deux choses qui vont évoluer parallèlement. Donc le travail sur cette technique, au fond, d'influence collective. Et parallèlement, alors peut-être de façon plus privée, un travail sur... comment guider les rêves, comment les accompagner. Vous parliez tout à l'heure de ce tableau de Friedrich, évidemment extraordinaire, dont une reproduction est dans le cabinet de Freud à Vienne.
Et puis, tableau de Füssli.
Le tableau de, oui, pardon, de Füssli. J'ai fourché. Et donc, on sent qu'il y a une étude évidemment collective sur le rêve qui doit commencer même avant Freud probablement. Oui. Comment ça marche cette affaire?
En particulier, dans la deuxième partie du 19e siècle, il y a énormément d'artistes qui vont travailler sur les stratégies plastiques de suggestion. Suggestion notamment par l'atomisation de la touche. Alors le grand ancêtre en la matière, c'est Turner, à partir des années 1810. Et d'ailleurs, dès les premières biographies de Turner, on dit que c'est quelqu'un qui cherche à susciter la rêverie, en particulier par deux stratégies plastiques. Non seulement cette touche très évanescente, mais aussi le fait qu'il laisse ses premiers plans libres, avec très peu d'objets, très peu de personnages, pour que le spectateur y projette ce qu'il souhaite.
Il y a un tableau, d'ailleurs vous l'évoquez dans le livre, qui est comme cela, qui est le fameux naufrage avec le chien qui hurle.
Vous pouvez
le raconter ?
Oui, bien sûr. C'est un tableau, en fait, où c'est une aube. Une aube où on voit simplement la mer et une plage, et puis un chien qui est en train de hurler à la mort. Et pourquoi est-ce qu'il hurle à la mort, ce chien? Parce que, ça c'est le titre qui nous le dit, parce que il y a une épave, mais une épave qui est hors champ, qu'on ne voit pas. Donc le sujet principal du tableau est exclu, de sorte que nous ne pouvons que l'imaginer et être au diapason du côté pathétique de cet animal complètement isolé dans cette scène déserte. C'est un tableau éblouissant, magnifique.
Et on voit que, voilà, l'importance du hors-champ qu'on va retrouver dans le cinéma, tellement utilisé, donc on le sent là. Alors, encore une autre histoire qui va avoir lieu un petit peu plus loin, je crois, c'est celle des surréalistes. Eux aussi vont essayer de guider les rêves. On a des spécialistes, Desnos va être un des grands spécialistes de la question.
Avec cette petite avancée, Jean de Loisy, qui ne vous aura pas échappé, qui est quand même que entre temps, il y a eu un basculement énorme, qui est un certain Sigmund Freud. Il faut quand même le préciser. C'est-à-dire que, pour le faire de manière très rapide et très synthétique, il y a énormément de travaux scientifiques sur les rêves, l'hypnose et le temps entre les années 1880 et 1900. En particulier chez des grands pionniers comme Charcot, Bernheim, Wilhelm Wundt, Bergson aussi et bien d'autres. Et puis Freud, qui a d'ailleurs été élève et de Charcot avant de se convertir à l'école de Nancy et à Bernheim, à Vienne, au début des années 1900, commence à avoir une véritable caisse de résonance en proposant la chose suivante, c'est que le rêve d'abord est complètement lié au passé et a un rôle essentiel qui est celui de guérir, de pouvoir, en tout cas d'avoir par le travail analytique, d'offrir à l'individu la possibilité de guérir ses névroses et donc de s'émanciper. Et c'est ça, évidemment, qui fascine les surréalistes, qui se disent, mais au fond, on pourrait émanciper non seulement l'individu, mais la société entière, de l'ensemble de ses préjugés moraux, esthétiques, à certains égards même physiques, en recourant en permanence aux rêves. Et en effet, parmi ces recours aux rêves, il y a les fameuses séances de sommeil avec Desnos, qui durent très peu de temps, à peine quelques mois, parce que Desnos entre dans des véritables transes médiumniques, et à un moment donné, il manque d'assassiner Éluard. Alors à ce moment-là, quand même, Breton dit ça va un petit peu trop loin. Mais Desnos a cette capacité extraordinaire de se faire rêver lui-même en s'auto-hypnotisant, et surgit de sa part non seulement des dessins, mais des nouveaux langages, des conversations avec des absents. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire. Et ça, on est là dans une révolution surréaliste en pleine ébullition.
Et parallèlement à cela, est-ce qu'il n'y a pas une expérimentation sur les psychotropes depuis 1880, depuis Quincey, oui, depuis Baudelaire, Huysmans, jusqu'à...
Oui, tout à fait.
Jusqu'à Timothy Leary, on pourrait dire, quasiment.
Alors, absolument, vous avez raison de citer Timothy Leary. C'est intéressant, ça, parce que ça aussi, c'est une histoire politique qu'on ne soupçonne plus. En fait, quand Thomas de Quincey fait le plaidoyer pour l'opium, c'est dans un contexte qui est celui de l'Angleterre georgienne et puis victorienne, où la dominante est celle du pragmatisme. Le pragmatisme, c'est la doctrine de Jeremy Bentham, qui consiste à dire, on arrête avec l'imagination, on arrête avec la poésie, on arrête avec les contes de fées, Et maintenant, hein, on entre de façon rationnelle dans la société industrielle.
C'est vrai que vous avez raison de rappeler cela, parce que on est dans un moment de transformation du monde grâce au monde industriel. C'est qu'il y a un paysage qui disparaît, un véritable pastoralisme qui disparaît. Et puis, il y a aussi une bataille qui est un petit peu opposée à ce dont on parle, qui est une bataille qui a lieu en France pour une grande partie, c'est celle des réalistes.
Bien sûr, bien sûr.
Et qui, effectivement, résiste à ce que nous sommes en train d'aborder.
Les réalistes, les positivistes, les naturalistes, les utilitaristes, les pragmatiques, il y en a beaucoup qui résistent justement à cette tendance à la libre imagination en disant bon, mais un monde meilleur passera nécessairement par la rationalisation à outrance. Et Thomas de Quincey va s'élever contre cela en disant que ce rationalisme, cet utilitarisme, il finit par tarir les capacités de l'être humain à s'enchanter, à s'émerveiller, et c'est en ce sens qu'il fait la promotion de l'opium. Et ça, dans les années 1960, donc un siècle, voire un siècle et demi plus tard, quelqu'un comme Timothy Leary, qui a écrit notamment « The Politics of Ecstasy », donc les politiques de l'extase et de l'ecstasy en tant que drogue, eh bien, ça relève de la même logique, c'est-à-dire que pour créer une société nouvelle, il faut se droguer. En se droguant, on va avoir des visions qui sont des visions complètement émancipées, complètement réenchantées. Les artistes vont pouvoir les traduire dans leurs propres œuvres. Et grâce au contact entre disons le grand public et cette génération nouvelle libérée par les psychotropes, il y aura l'avènement d'un monde meilleur. Et tenez-vous bien, Timothy Leary dit même dans la réédition de The Politics of Ecstasy en 1990 que l'effondrement de l'Union soviétique devait beaucoup à Allen Ginsberg. Faut quand même le faire.
Ouais, c'est très beau. Et donc tout ça pour ouvrir les portes de la perception, pour citer Huxley évidemment, mais au fond ce sont aussi de misérables miracles.
Oui, parce que il n'aura échappé à personne, en tout cas pas à ceux qui ont essayé, que derrière l'extase, il y a naturellement l'enfer, la fête est finie, le rêve qui est brisé, le retour à la réalité. Simplement, Huxley, dans Les Portes de la Perception, invite la société à créer un jour une drogue artificielle qui donnerait la capacité d'avoir les effets des psychotropes sans avoir ce qu'on appelle les bad trips, sans rechuter. Donc vous voyez, les anticipations, même si Huxley est très évidemment très dubitatif avec toute forme d'utopie, on le sait grâce à son formidable roman qui est Le Meilleur des Mondes, mais Huxley avait cette idée d'un monde idéal complètement sous psychotropes et sans rechute.
Alors, le monde idéal sans psychotrope et sans rechute, mais qui deviendrait idéal par l'art et l'effort collectif pour justement rêver un monde meilleur, c'est ce que vous appelez l'American Dream. Et je voudrais qu'on lise une page de votre livre sur cette question-là, surtout le moment où vous parlez d'un personnage, James Truslow Adams, et c'est très intéressant de voir le début du rêve américain, et ça nous permettra de comprendre sa banalisation.
L'altération de la notion d'American Dream est à ce sujet un exemple tristement symptomatique. Quand l'expression, appelée à devenir fameuse, apparaît pour la première fois en 1931 dans The Epic of America, le récit historique de James Truslow Adams, c'est pour faire jaillir la vision d'une société d'ascension potentielle égalitaire. L'auteur affirmait clairement que rien de ce que son pays avait jusqu'alors généré ne constituait un don particulier et spécifique fait à l'humanité. Rien, sinon l'American Dream en soi. Mais d'emblée, il prend bien soin de le distinguer de sa forme pervertie et en anticipe, par cette nuance même, l'équivocité qui va la caractériser tout au long du XXe siècle. L'American Dream, expliquait-il dans un long épilogue lyrique, ne se réduit pas au rêve de véhicules à moteur et de hauts salaires. C'est un rêve d'ordre social, où chaque homme, chaque femme devrait pouvoir atteindre la pleine mesure de ce dont il est intrinsèquement capable, et être reconnu pour ce qu'il est, indépendamment des circonstances fortuites d'origine et de position. Mais à force d'instrumentalisation commerciale de ce vénérable songe, décrit notamment par Roland Marchand, exemplifiée par des campagnes pour les automobiles Ford ou l'immobilier, la machine à faire rêver que sont les États-Unis a abondamment vanté et édifié ce que James Truslow Adams redoutait, c'est-à-dire un règne du consommateur et du producteur obsédé par la course au dollar et la démonstration de puissance.
Vous êtes sur France Culture et vous écoutez L'Art et la Matière. Je suis avec l'historien d'art Thomas Schlesser à propos de son livre, et on comprend en écoutant ce que l'on vient d'entendre à l'instant sur l'American Dream, le sens qui est sous-jacent à son titre, faire rêver, de l'art des lumières au cauchemar publicitaire, qui vient de sortir chez Gallimard. Thomas, on vient d'entendre donc c'est une page que vous avez écrite et vous évoquez le personnage James Truslow Adams, qui reprend un petit peu ce que nous disions, c'est-à-dire il y a une bonne volonté au début, collective, de transformer la société, pas seulement par le rêve, mais par l'art, par un ensemble de données extrêmement positives. Et ça commence à ne pas aller. Pourtant, on est dans ce monde industriel qui commence avec des œuvres extraordinaires, avec le cinéma par exemple, qui révèle sa nouvelle puissance.
Oui, mais en révélant sa nouvelle puissance, d'emblée, même les plus grands amateurs de cinéma se méfient, et même les cinéastes eux-mêmes. Regardez Jean de Loisy, par exemple. Si vous prenez les grands pionniers du cinéma, de l'expressionnisme allemand, quelqu'un comme Fritz Lang, quelqu'un comme Robert Wiene, évidemment quelqu'un comme Murnau, tous, dans leurs films, mettent en scène des magnétiseurs qui sont capables d'asservir les foules, jusqu'au meurtre, évidemment la domination. C'est-à-dire que le pouvoir magnétique d'un homme et d'un spectacle sur le reste de la société est déjà anticipé dans ces premiers films des années 1919.
Les grands personnages sont des hypnotiseurs.
Exactement. À chaque fois, et donc ça c'est un grand lieu commun qu'on retrouve partout dans la critique sur le cinéma, le cinéma comme ce que Malraux appelait ça le machinisme du rêve, pour le dénoncer, hein. C'est-à-dire que il y a chez Malraux deux discours vraiment très intéressants en 1964 et en 1966, dans lesquels il s'en prend aux forces de mort, aux forces sinistres que véhiculerait l'industrie du cinéma. Et il appelle ça en effet le machinisme du rêve.
Je propose que, puisque vous en parlez, Thomas Schlesser, je propose qu'on l'écoute, parce que c'est des phrases très importantes.
Prenons garde que la civilisation machiniste apporte une multiplication du rêve que l'humanité n'a jamais connue. Il y a les machines à transporter, il y a aussi les machines à faire rêver. Les usines de rêve n'ont jamais existé avant nous. La machine est le plus puissant diffuseur d'imaginaire que le monde ait connu. L'objet principal de la culture est de savoir ce que l'esprit peut opposer à la multiplication d'imaginaire apportée par la machine. Le cinéma n'est pas né pour servir l'humanité. Il est né pour gagner de l'argent. Il se fonde donc sur les éléments les plus suspects de l'émotion, à l'exception du comique. Il convient donc d'opposer au puissant effort des usines du rêve producteur d'argent celui des usines du rêve producteur d'esprit. C'est-à-dire d'opposer aux images du sexe et de la mort les images immortelles.
Thomas Schlesser, on vient d'entendre André Malraux, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a vu juste.
Oui, après, je ne suis pas sûr qu'il ait vu toujours complètement juste en matière de cinéma, Malraux, qui a quand même été parfois un censeur assez peu avisé et dénoncé par notre ami Jean-Luc Godard. Mais, en revanche, je trouve le texte... d'ailleurs, c'est un texte qui dit devant Senghor, en 66, au moment où il est à Dakar pour un festival des arts qu'on appelait encore à l'époque les arts nègres. Mais c'est vrai que en entendant cela aujourd'hui au sujet du cinéma, on peut pas s'empêcher quand même de penser à la tyrannie des écrans qui ont pour le coup envahi notre intimité aujourd'hui et qui sont comme une extrapolation de ce que raconte Malraux en 66.
Cette puissance des machines dont Malraux se méfie, il comprend tout de suite. Donc je suppose que quand elles sont arrivées, ces machines qui ont produit cette industrie extraordinaire et ces films absolument merveilleux du début de l'histoire du cinéma, on y croyait positivement. Canudo, vous le citez dans votre livre, dit ça va être, on va réussir à faire un art vrai avec ces...
D'ailleurs, Canudo est l'inventeur de l'expression septième art pour le cinéma. Et lui, oui, est un défenseur forcené. Il faut dire au sujet de Canudo qu'il est plutôt dans la branche des futuristes italiens, donc très attaché à... très technophile, pourrait-on dire. J'en citerai volontiers un second qui est contemporain de Malraux et qui est un artiste pour lequel j'ai pas mal d'affection, qui est Nicolas Schoeffer, et qui lui...
Un technophile. Alors,
et qui est alors un technophile.
Un grand artiste cinétiste.
Absolument, et qui est un technophile, mais alors complètement, totalement convaincu, et qui, dans les années 1960, imagine qu'on pourra à un moment donné avoir ce qu'il appelle un bain esthétique, plonger la société dans un bain esthétique, grâce à une omniprésence des écrans, mais qui s'adapteront en permanence aux volontés du regardeur pour lui offrir les plus grands ravissements visuels possibles. Alors, il y a quelque chose, d'ailleurs, qui n'est pas complètement absurde dans la société d'aujourd'hui. Il ne faut pas être non plus dans la technophobie la plus radicale. Il y a des œuvres d'art qui permettent ça. De là à dire qu'on est envahi d'écrans qui nous permettent d'être dans un bain esthétique permanent, je pense qu'il y avait un petit péché d'optimisme de la part de Nicolas Schoeffer.
Alors, néanmoins, on entend bien que cette machinerie est tout de suite comprise par le politique comme quelque chose qui va nous permettre d'organiser et d'influencer la société. Et je pense en particulier à ce qui va se passer dans le cinéma soviétique, par exemple. Toute cette manipulation, sans parler du nazisme, encore pire.
Bien sûr, alors il va y avoir les totalitarismes vont naturellement s'emparer de toute cette matière. Et je voudrais ajouter une chose au sujet des totalitarismes, c'est que c'est à chaque fois des stratégies qui sont beaucoup plus orientées dans l'action-réaction, dans l'émotivité, et au fond dans un maintien en éveil permanent que vers l'onirogénéité. J'entends par là que, par exemple, chez des critiques et artistes comme Ossip Brik ou Nicolas Tarabukine, dans les années 1920, d'emblée, il est dit que continuer à rêver devant des tableaux, eh bien, c'est maintenir un état aristocratique et bourgeois. Il y a ça quand même hein, dans le totalitarisme que je crois est une nuance importante, c'est que en effet, on sent par des esprits, mais davantage pour qu'il n'y ait jamais que ce soit un asservissement par la mise en branle permanente.
Donc on voit quand même bien dans votre livre l'utilisation du rêve, cette fois-ci pour le cauchemar, peut-on dire. Ouais. Ce cauchemar, il a au fond un aboutissement qu'on voit bien dans le cinéma d'il y a 20 ans, c'est Matrix.
Alors, ça c'est un film qui est fascinant, Matrix, puisque Matrix raconte, on le sait, un sauveur, Neo, qui viendrait être celui qui délivre l'humanité de la matrice. Mais la matrice, elle est entretenue comment dans le scénario? Eh bien, ça, les gens ne s'en souviennent à mon avis pas assez. C'est qu'en fait, les machines entretiennent des champs entiers de cocons dans lesquels il y a une humanité qui est évidemment dépourvue de toute vie sociale et de toute vie biologique, et qui se cantonne simplement à rêver notre réalité, celle qu'on vit en ce moment, Jean Deloisy, et c'est cette rêverie qui permet de fournir l'énergie aux machines qui donc dominent l'humanité. Donc c'est un retournement très amusant, parce que nous nous disons en permanence que nous exploitons les machines au service du maintien de notre humanité, eh bien là, c'est l'inverse qui se produit dans Matrix.
Alors, dans la réalité, c'est surtout au service du développement économique de la société. Et donc, il y a une phrase qui a fait, évidemment, qui a été très connue, c'est celle de Patrick Lelay sur TF1. Pour ceux qui l'ont oublié, je propose qu'on l'écoute, elle est tout de même édifiante.
À la base, le métier de TF1, c'est d'aider Coca-Cola, par exemple, à vendre son produit. Or, pour qu'un message publicitaire soit perçu, il faut que le cerveau du téléspectateur soit disponible. Nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible.
Vous êtes sur France Culture et nous continuons notre aventure dans l'histoire du rêve du 18e siècle à maintenant, ce dévoiement comme ça du rêve. Et puisque nous avons conclu cette petite partie avec Patrick Lelay, il a dû en souffrir un petit peu, je pense, de cette aventure.
J'imagine, si ce n'est que quand il s'est repris, il a proposé des excuses timides et puis il a dit exactement la même chose derrière. Et puis, alors, cette phrase est horrifiante, mais elle a un mérite, c'est qu'elle est parfaitement sincère et surtout,
et
je crois qu'elle est parfaitement juste. Donc, ouais.
Alors, dans votre livre, ce qui est assez curieux, c'est que on traverse cette aventure du cinéma, de la machine, de ce qui est absolument extraordinaire, et on est en partie de la reconstitution de la chambre. Et puis, il y a une sorte d'anachronisme dans la construction du livre. Tout d'un coup, on ouvre un chapitre et c'est l'enfant au toton de Chardin, celui du musée du Louvre, que l'on voit, et on revient à une rêverie merveilleuse.
Oui. En fait, bon, c'était un petit effet de surprise que je voulais ménager au lecteur, c'est que, et que pour ceux qui achèteront le livre, l'effet de surprise n'aura pas lieu, mais c'est pas grave.
Ah, j'ai spoilé la fin.
Absolument aucun problème. Mais il se trouve que je parle d'un film qui s'appelle Inception, dans lequel, en effet, il y a là aussi le rêve comme la fabrique du rêve, hein, comme étant un asservissement de l'humanité. Et dans Inception, il y a un objet totem qui est une toupie. Et comme ce chapitre se clôt sur des choses très modernes, de la technologie très avancée, j'en ai profité pour faire ma propre analogie, ma propre rêverie, et passer de la toupie d'Inception à celle du tableau que je considère, c'est tout à fait personnel ça, hein, mais comme l'un des deux plus beaux tableaux du XVIIIe siècle. Bon, c'est un tableau extraordinaire, celui d'un enfant qui a son pupitre et qui regarde une toupie très fragile en train de tourner sur elle-même. Et ce tableau est bouleversant, d'abord ça va de soi parce qu'il est magnifiquement peint par Chardin, mais surtout parce que il raconte une chose, c'est que le rêve des Lumières, donc le rêve d'un redéploiement du monde entier, passe par des choses, allez, on va dire des enclencheurs, des agents extraordinairement simples. Et dans une toupie, il y a les métaphores les plus essentielles, celle de la course des astres, celle aussi de la course humaine, hein, de la naissance virevoltante jusqu'à la mort un petit peu pathétique. Et donc voilà, j'avais à cœur de parler de ce tableau. Pour tout vous dire d'ailleurs, faire une confidence, c'est que je le voulais en couverture de l'ouvrage et mon éditeur Jean-Loup Champion m'a dit tu ferais mieux de mettre quelque chose du 20e siècle.
Mais qu'est-ce que vous avez mis? Parce que moi j'ai eu le service de presse qui se défait un petit peu. Et
une œuvre qui elle aussi est très très belle, une œuvre de Toyin. Une œuvre de Toyin, donc une artiste surréaliste tchèque, qui est une peintre tout à fait admirable. Et c'est une figure féminine de dos devant un paysage désert. Et voilà, c'est une œuvre que j'aime vraiment beaucoup aussi.
Vous en parlez à plusieurs reprises. Il y a plusieurs artistes, grands artistes femmes, comme ça, que vous faites apparaître dans cette relecture de l'histoire. Et je trouve que c'est très important.
C'est vrai, les femmes sont assez présentes, oui.
Il y a une période dont on n'a pas parlé, pardon, puisque vous êtes permis de revenir en arrière avec le jardin, j'en profite. C'est un moment qui correspond à cet optimisme de la fin du 19e siècle. C'est celui où Matisse, Signac, Puvis de Chavannes décrivent un monde qui s'est transformé et une sorte de monde heureux.
C'est un monde heureux, mais c'est une anticipation d'un monde heureux. Si je peux me permettre, Jean de Loisy, vous dites un monde qui s'est transformé. Il ne s'est pas encore transformé. Et en fait, ces œuvres, en effet, comme Luxe, Calme et Volupté de Matisse, l'œuvre magnifique de Signac, dans laquelle on voit, en effet, cet Éden avec à la fois un homme qui cueille, une famille, un homme qui peint. Ce sont en fait des sociétés idéales qui sont rêvées en espérant qu'elles soient réalisées un jour. Et d'ailleurs, Jean Jaurès lui-même, dans un discours très très intéressant de 1900 qui s'appelle « Art et socialisme » qu'il prononce à la Porte Saint-Martin, va dire à son auditoire, sous les hurrahs de la foule, que Puvis de Chavannes avec son bois sacré, que tout le monde peut aller voir puisque c'est à la Sorbonne un grand décor peint, a été pénétré du rêve de lendemain édénique, et que ce faisant, il esquisse déjà le rêve collectif fraternel du socialisme. Donc, d'une certaine manière, Jaurès voyant Puvis de Chavannes dit « Bon, bah, voilà un artiste qui va engager à sa suite la réalisation de l'harmonie socialiste ». D'ailleurs, je me suis amusé à appeler notre camarade Daniel Cohn-Bendit en lui demandant si au moment des discours, des prises de parole, des assemblées de mai 68 qui étaient sous le décor de Puvis de Chavannes, ils avaient conscience de l'importance de cette œuvre pour Jaurès et si eux-mêmes l'avaient évoquée. Et Cohn-Bendit m'a dit que non.
Il a peut-être oublié, mais c'est vrai qu'il y a même dans une photographie où on voit une assemblée de 68 dans le livre et on voit
d'un photographe hollandais d'ailleurs. Ouais.
Et qu'est-ce qui s'est passé parce que il y a deux ou trois autres invités comme ça qui sont très intéressants dans le livre. On va en reparler. Goya, la Montaigne, par exemple, et Marianne Zazila, évidemment. À un moment donné, puisqu'on avait commencé à parler du rêve américain, il y a un invité majeur qui est Disney. Disney, c'est aussi un grand artiste, mais oui, c'est aussi une industrie.
Disney, ça a été un grand artiste reconnu notamment par un intellectuel qu'on aime beaucoup en histoire de l'art, qui est Walter Benjamin, qui disait de Mickey que c'était vraiment une figure de rêve et d'émancipation, et notamment parce que, aux yeux de Benjamin, face à l'industrie galopante et au machinisme ambiant, Mickey avait cette faculté extraordinaire, grâce à son propre corps, de changer les situations. Et que ça, c'était pour la foule une créature de rêve à laquelle il était bien naturel de s'identifier. Simplement, Walter Benjamin n'avait sans doute pas anticipé ce que deviendrait Disney, c'est-à-dire pas simplement le gentil Mickey, mais une immense industrie du divertissement, hein, ouais, consumériste, avec notamment beaucoup de dessins animés qui sont relayés à chaque fois par des produits du marketing. Comprenez bien que la stratégie de Disney, c'est de faire rêver des enfants devant des dessins animés pour qu'ensuite ils achètent des jouets et prolongent le rêve en ayant leurs figurines dans leur chambre ou en ayant un jeu vidéo. Donc, et tout ça est très très savamment orchestré. Je veux dire là, si vous tapez faire rêver sur Google, vous vous rendrez compte que il y a vraiment des séminaires de management chez Disney autour de la meilleure manière de faire rêver le consommateur.
Alors il y a des rêves qui sont moins heureux que vous évoquez dans le livre. Alors il y en a un qui est très étrange, ceux qui l'ont vécu ou qui peuvent le vivre à New York, c'est celui de la Dream House de la Montaigne, ce grand artiste.
Et Marianne Zazila.
Donc il faut imaginer qu'on rentre dans un espace extrêmement moelleux avec une lumière magenta et que là on écoute la tessiture d'une seule note et que l'artiste qui vit sur des rythmes particuliers étudie au fond la façon dont cette musique a un effet sur le corps.
Absolument.
Mais vous l'associez à Goya.
Oui, parce que en fait, je voulais faire une espèce de jeu d'opposition entre deux maisons du rêve, l'une tout à fait idéale, qui est celle de l'Amante Young et Zazila, dont j'ai fait l'expérience deux fois. On pouvait la refaire d'ailleurs récemment au centre Pompidou-Metz, et je dois avouer que cela fonctionne quand même très très bien, c'est-à-dire que on finit par être absorbé dans cet état méditatif et vraiment tout à fait disposé à la rêverie. Et puis d'un autre côté, la fameuse maison du sourd de Goya, qui était cette maison que Goya a investie à la fin de sa vie, à la fin des années 1810, alors que il est non seulement sourd, même si la maison du sourd, en fait, c'était une appellation pour l'ancien propriétaire, mais peu importe.
Mais c'était intéressant parce que, pardon, je vous interromps, parce que je dois dire que je ne le savais pas. Moi, j'ai toujours pensé que la Quinta del Sordo, c'était à cause de la surdité de Goya, et en fait, vous révélez, les spécialistes le savent, mais moi, je ne le savais pas, que c'était le propriétaire précédent qui était sourd.
Oui, c'était le propriétaire précédent. Mais vous voyez, c'est peut-être ça, c'est peut-être l'inconscient, c'est peut-être très lacanien, au fond, finalement, Goya, qui lui-même était sourd, a acquis cette maison. Il était sourd, Goya, mais pas seulement, il était acouphénique aussi. Acouphénique, ça veut dire qu'il était pénétré en permanence par un chaos sonore. Et quand on regarde les tableaux noirs, ça c'est une proposition que je fais, c'est-à-dire tous ces tableaux qui décoraient sa maison du sourd, dont le plus célèbre est Saturne en train de dévorer un de ses enfants, eh bien, ce sont des tableaux qui sont animés par un brouhaha, un vacarme, une sorte de discordance, et ça, je crois que c'est aussi une manière d'instiller le cauchemar, c'est-à-dire pas simplement des visions, mais également des sons qui nous pénètrent et nous perturbent. C'est sans doute un exutoire pour Goya, pour ceux qui le regardent, c'est tout à la fois un régal et un véritable cauchemar.
Thomas Schlesser, vous êtes, on a parlé de ce livre extraordinaire qui dépasse effectivement, comme je le disais, qui déborde en tout cas la question de l'histoire de l'art pour en faire une histoire de notre société. Vous préparez un autre ouvrage dans cette direction ?
En tout cas, c'est un ouvrage, oui, qui est lié à cela partiellement. Je prépare un travail sur la notion du mignon, the cute en anglais.
Pourquoi ? C'est caractéristique de notre époque ou c'est
Précisément, et vous ferez attention à ça, Jean de Loisy, c'est qu'aujourd'hui, le qualificatif esthétique le plus utilisé au monde, c'est-à-dire le jugement de goût le plus utilisé au monde, il est anglais, hein, c'est cute, mais c'est utilisé en français aussi. Et donc, je voudrais faire une généalogie du mignon. D'où ça vient et comment est-ce que le mignon aujourd'hui nous tyrannise et surtout, et c'est là le lien avec Faire rêver, nous maintient dans nos ressorts les plus enfantins, nous infantilise.
Merci infiniment, ça va être passionnant, on se réjouit. Merci Thomas Schlesser.
Merci Jean de Lozé.
La matière, c'est la vie aussi.
Toutes ces idées qui viennent, il faut les attraper comme des mouches quand elles passent. Ce sont des idées bleues, des idées roses, des idées qui passent.
Parce qu'on veut transformer la vie pour un moment.
C'était L'art et la matière par Jean de Loisy en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Et aujourd'hui, j'ai reçu Thomas Schlesser pour son livre « Faire rêver ». De l'art des lumières au cauchemar publicitaire passionnant qui vient de sortir il y a quelques instants chez Gallimard. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. C'est une émission qui est conçue en collaboration avec Seam Boutata. Lecture des textes, la belle voix d'Hélène Losseur. Prise de son, Éric Boisset. Réalisation évidemment Franck Lilin, merci Franck. La semaine prochaine, on va à Marseille visiter une exposition qui s'intitule « Par hasard, l'importance du hasard dans la création des artistes du XXe siècle ». Et nous serons avec le directeur des musées de Marseille, Xavier Rey. À 15h30, vous retrouverez Victor Massé de l'Épinay pour le rayon BD et dans quelques instants, « Personnages en personne » par Charles Danzig. Bon après-midi sur France Culture.